Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il paraît, Nicole Le Garec, que ma tranquillité est contagieuse. Donc c'est tranquillement qu'on va rentrer dans Par les temps qui courent avec vous ce soir.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
France Culture, Marie Richeux, avec Nicole Le Garec.
Venir en voisin, n'avoir pas un sou d'avance, être régulier, fidèle, tenace, en observation comme en amitié, on peut dire que c'est au moins avec ce réel et ses principes en tête que se construit votre film « Des pierres contre les fusils », tourné de fin janvier à mars 1980 avec Félix Le Garec, sur le vif et dans l'urgence de la lutte du village de Plogoff contre le projet d'installation d'une centrale nucléaire. Dans ce beau village du Finistère, des hommes, des femmes, des jeunes gens, pas forcément habitués à remettre en cause l'ordre établi, se mobilisent jour après jour et refusent l'enquête d'intérêt public qui leur est imposée. On leur oppose des policiers, plus ou moins aguerris au début, et puis des militaires. C'est une lutte qui mettra les habitants en lien avec d'autres luttes du territoire français, comme celle emblématique du Larzac. De la côte extrême ouest à la côte d'Azur, vous allez présenter la version restaurée de cet incroyable film lors du dernier festival de Cannes en mai dernier. Et c'est cette version qui est en salle depuis hier. Bonsoir à vous, Nicole Le Garec.
Voilà, effectivement, c'est une ressortie, une belle ressortie. Nous sommes ravis, mon mari et moi, parce que 40 ans après, on n'aurait jamais espéré ça. Voilà, c'est un film qui... On a eu du mal à prendre de la distance, parce que il y a toujours eu des demandes de projection, parce qu'en fait, il était un peu le symbole de la résistance, de l'engagement... Et du coup, comme il y a eu quand même un certain nombre de problèmes et donc de résistance aussi par rapport à tout ce qui a pu se détériorer ou dans le service public ou des hôpitaux qui se ferment, des écoles qui se ferment aussi, des tribunaux, voilà. Et le problème du CPE aussi, avec des jeunes, c'était dans les années 90. Tout ça a fait que le film, il ressurgissait toujours. Il était toujours sur les routes, plus ou moins, évidemment, avec intensité. Mais voilà, il ne nous a jamais quittés et aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus. Ça va être intense là pendant quelques mois, jusqu'au mois de mai. Au mois de mai c'est un peu plus calme.
Parce que vous allez aller vous promener un petit peu partout en France avec cette version restaurée ?
Tout à fait. Il y a eu des avant-premières déjà, donc on a commencé à Pinmar, c'est notre fief là. Et donc il y avait deux séances, une à 18h et l'autre à 21h. Et on a refusé 180 personnes. c'était une belle soirée. Et on a continué le film. Engendre des débats riches. Les gens ont des questions à poser après ce genre de film. Peut-être que les documentaires suscitent plus de questions, je ne sais pas. Mais on n'a pas eu de blanc, en somme. Quelquefois, on dit la première question et tout. Non, ce film, les gens parlent, ont besoin d'échanger.
Et vous avez encore envie d'en parler ?
Oui, parce que je suis partante pour les projections à cause des débats, justement. J'ai quelquefois des personnes, on habite Plonéour-l'Anverne, au sud de Quimper, donc une petite commune, et alors des gens quelquefois me disent, voilà, les gens du CRU me disent, mais enfin, vous n'en avez pas marre de présenter le même film? Et je leur dis, ben, le film, oui, un peu, évidemment. Mais les débats, c'est jamais le même public. C'est pas les mêmes questions, c'est pas les mêmes spectateurs. Et on est allé devant des publics très différents. On est allé dans les prisons, on est allé sur les îles, on a eu des publics de jeunes en difficulté, on est allé dans les banlieues, on est, voilà. Et du coup, ça génère tout à fait autre chose, et ils nous parlent aussi de leurs problèmes, en fait. Hein. Et c'est ça qui nous a plu à Félix et moi, et c'est pour ça qu'on a continué vaillamment à courir sur les routes de France.
Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978.
Monsieur le Président, Le Goff fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années. Monsieur le Président, ignoblement nous sommes trahis, il faut voir comme par Guermer et son plan. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut. Décision est prise, on va la refuser.
Plogoff, 2300 habitants, dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Une enquête qui sera longue. Le préfet du Finistère a fixé sa durée à 6 semaines.
Et ce furent 6 semaines de lutte, Nicole Le Garec. C'est la scène d'ouverture, peut-on dire, en tout cas la scène sonore d'ouverture de votre film, car il y a des choses avant, la lecture de cet article du Monde de 1978, cette réécriture de la chanson Le Déserteur de Boris Vian à la sauce Plogoff, et ensuite la présentation comme ça de ce qui va être le nœud, le théâtre du conflit, à savoir le refus de l'enquête. Alors, on est à Plogoff, dans ce petit village, mais ce n'est pas exactement le lieu où vous viviez à l'époque, trentenaire, femme trentenaire. Quel âge il a, Félix Le Garec, à ce moment-là?
À ce moment-là, il a déjà 50 ans.
Il a déjà 50 ans, il a un rapport à l'image, à la photographie, il a une caméra. Qu'est-ce qui fait que, n'étant pas tout à fait de Plogoff, vous vous y retrouvez néanmoins, et vous la première?
Alors, on s'y retrouve parce que la conscience écologique, elle avait grandi chez nous et en Bretagne aussi. Nous faisions des diaporamas au départ, parce que il faut dire que les années 70, 60 et avant notamment, il y avait c'était très difficile de faire du film en région. La décentralisation ne s'était pas faite du tout. C'était donc très centralisé, encore plus pour la culture, le cinéma. Et comme le cinéma, il y a besoin de matériel, c'était un problème. Et on se retrouve, on va tout lâché dans notre ancienne activité pour se consacrer, devenir des gens de terrain, saisir la parole de gens ordinaires, de gens qui n'avaient pas, à qui on ne donnait pas la parole jusque-là. Ça nous frappait quand même au niveau des télévisions de tout ça. Ben, à ce moment-là, la télévision était quand même beaucoup plus sous une certaine surveillance. Et on se met donc à faire, et on commence par un diaporama sur le remembrement. La guerre du remembrement, on appelle ça.
Il faut dire ce que c'est quand même, le remembrement, parce que ça parle aux familles d'agriculteurs mais, et aux historiens, mais pas à tout le monde. Vous expliquez voilà. Rapidement.
Alors, il y a eu un grand chantier en France dans les années 60-70 pour que l'agriculture se modernise, entre guillemets, et pour que la technologie, donc les gros tracteurs en fait, puisse que l'agriculture s'adapte à cette technologie nouvelle. Et donc, en Bretagne, c'est un pays de bocage, il y avait beaucoup de talus, et le gouvernement a décidé de les araser, supprimer les talus. En gros, faire de la Bretagne une bosse, quoi, une petite bosse.
Et donc faire aussi des grands champs plutôt que des champs divisés par exploitation familiale et par ferme où pourraient circuler ces nouveaux gros tracteurs.
Voilà, voilà. Tout d'un coup, il fallait que tout soit grand et que ces talus-là ne représentaient, donc c'était quelque chose de tout à fait passéiste, qui avait été mis en place quand l'agriculture elle était manuelle et que voilà, et n'avait donc aucun intérêt. Et les agriculteurs que l'on a donc avec qui on a pris contact nous disaient on peut supprimer certains talus. Certes, il le faut, il y en a peut-être trop, mais si on supprime, certains sont vraiment essentiels. La terre arable va glisser vers la rivière. Les vaches n'auront plus d'abri, puisque si tout est nu, et nous ici, on est un pays de tempête. Le temps et le vent, la pluie, tout ça est bien présent. Et les vaches se réfugient près des talus, sous les arbres, dès qu'il fait froid, dès qu'il fait mauvais. Et quand il fait chaud, elles vont aussi se protéger au même endroit. Et ensuite, évidemment, c'était d'une richesse incroyable au niveau de la faune et la flore. Et donc, eux, ils ont résisté. Ils ont mis en panne même des bulldozers, parce que certains d'entre eux, donc à l'époque, avaient été résistants, et donc avaient un certain savoir-faire.
Résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et pendant l'occupation allemande en Bretagne.
Oui, tout à fait. Mais c'était pas, ils n'étaient pas médiatisés, parce qu'à l'époque, l'image du progrès était encore bien brillante. C'était le progrès avec un grand P, et ces agriculteurs ont été traités de passéistes. Et nous, en les écoutant, et puis je suis fille d'agriculteur, je savais que les talus, une fois qu'on les aurait détruits, ça poserait un certain problème, et pour les reconstruire, c'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, on voudrait le faire, et on ne voit pas grand-chose arriver. Donc voilà, on est allé leur donner la parole et on a continué comme ça avec, en donnant la parole aux derniers ardoisiers, par exemple, qui faisaient donc le toit des cathédrales, les marins-pêcheurs. Et puis, il y a eu les marées noires, plusieurs marées noires en Bretagne. Donc la conscience environnementale commençait à grandir, à s'affirmer, parce que les gens voyaient que le plan Polmar était d'une inefficacité redoutable.
Vous nous faites une petite note de bas de page, le plan Polmar.
Alors, le plan Polmar, c'était ce que le gouvernement avait mis en place pour nettoyer les plages et faire en sorte que le mazout, le fioul, ne vienne pas sur les plages. Il y avait des rouleaux comme ça de, enfin pour essayer de faire barrage au fioul. Évidemment, la mer passait outre, ça ne servait à rien du tout. Ils ont dû être enlevés d'ailleurs au bout d'un certain temps. Et ce sont les pelles et les mains qui ont fait le travail pour nettoyer les plages. Voilà, donc on a eu ça en Bretagne, on a eu plusieurs. Et est arrivé un moment, en 78, alors la grande marée noire du siècle, qui était la Moko Cadiz. Et là, les gens s'indignent. Réellement, il y a des télévisions qui viennent du monde entier, là. C'était une première, à la limite, aussi forte, quoi. Et les gens, à nouveau, le plan Polmar montre son inefficacité. Les bénévoles viennent avec leurs pelles et tout ça, à peine s'ils ont des gants, d'ailleurs. Et on voit que le fioul, où le mettre ? Il y a un problème, que faire de ce fioul-là ? Et donc, on met dans la falaise, derrière, on met une bâche. C'est la seule chose que les pouvoirs publics nous ont offert. Une bâche où on mettait le fioul. Naturellement, au bout d'un certain temps, on sait bien que...
La bâche s'en va.
Voilà, voilà. Donc, tout ça a fait naître une certaine méfiance, un mécontentement aussi... chez les Bretons en général. Et quand arrive l'affaire Plogoff, donc, les gens vont ils vont aux réunions d'information, ils vont s'informer. Et les militants, donc, dont je faisais partie d'ailleurs, on s'est vite méfié du nucléaire quand même. On a fait venir des scientifiques, des experts, qui nous expliquent un peu ce qu'était le nucléaire, ses centrales, parce qu'il n'y avait pas d'informations, vraiment. Et comme ça, on nous demandait d'accepter quelque chose auquel on ne connaissait rien. Et c'était un grand bouleversement dans le pays. La radioactivité... voilà, qu'est-ce que c'était ? Il y avait beaucoup de questions et les salles étaient pleines de monde. Les gens venaient s'informer. Et donc, 2 ans après, quand arrive l'enquête...
D'intérêt public.
Voilà. Les gens de Plogoff se sont réunis après réflexion et tout. Et ils ont décidé de boycotter l'enquête, effectivement. Voilà. Et nous ?
J'allais le dire.
Et nous qui avions donc pas d'argent du tout, c'était le grand problème évidemment sur ce film, parce que c'était du 16 mm de la pellicule. La vidéo elle était naissante quoi, à la limite à l'époque, on n'avait pas de caméra vidéo, on avait une caméra 16, parce que du diaporama on était passé au film à un moment, mais on faisait des débuts, quoi. C'était.
D'ailleurs, il y a des restes hein, de cette pratique de diaporama dans le montage. C'est des restes sublimes parce qu'il y a des moments d'image fixe, plus ou moins sonorisés, où la bande son du film continue ou se suspend. C'est un film qui laisse beaucoup de place à des moments de silence comme ça, et ce sont des images fixes à l'écran, vraiment. Et donc, il y a comme une sorte de continuation, Nicole Le Garec, entre ce que vous faisiez avant et ce qui naît avec votre pratique du 16 mm. Et donc vous faites quoi alors avec cette caméra 16 mm ?
Alors, avec cette caméra 16 mm, la décision n'a pas été facile à prendre parce que mon mari, à juste titre, disait on n'a pas d'argent, pas de film. Ça coûte cher l'achat de la pellicule, le labo, tout ça. Et le laboratoire, et puis la post-production, le montage. Bon. Et quand même, il accepte de venir à Plogoff le premier jour de l'enquête d'utilité publique. Nous étions 3, parce que nous avions avec nous un preneur de son qui était salarié. Nous, on avait déjà fait des films avec lui. On avait fait aussi des films de commande pour pouvoir acheter du matériel. Et quand arrive Plogov, donc on a ce matériel. On a le gros problème que vous connaissez, mais nous avons quand même le matériel. On arrive tous les trois et on voit toute cette population regroupée. Là, les mains nues, hein, il n'y a pas question de cailloux ni rien pour l'instant. Et des enfants, des vieilles personnes, des femmes, des... bon, toute une population. Et en face, alors, un déploiement de forces de l'ordre très, très impressionnant. Et ça, on comprenait tout de suite la perturbation que ça allait mettre dans cette région paisible. Et là, mon mari n'a pas résisté. Il est allé chercher sa caméra. Jacques Bernard a pris son Agra pour le son. Et le film a commencé là.
Vous aviez tous les trois l'intuition, et tous les deux peut-être encore plus, Nicole Le Garec, il fallait garder trace de ce qui allait se passer, l'intuition qu'il allait se passer des choses importantes dans ce petit village.
Alors oui, moi j'ai eu cette intuition très en amont, parce que j'avais participé à des manifestations, et l'une d'entre elles m'avait beaucoup touchée. On était, le maire de Plogov et les gens de Plogov, donc, nous conviaient à partir de la mairie de Plogov pour aller sur les lieux où allait se construire la centrale, à Fontenaude. On traversait donc cette lande, toute cette région, et on marchait, on était à pied. Là, il n'y avait évidemment pas de force de l'ordre, on était, voilà. Et le pays est fort quand même. Et donc on ressentait ça. Et je crois que on était 5000. Les 5000 personnes qui étaient là, il y avait quelque chose qui se passait. On avait aussi, on était tous investis tout d'un coup, et on empathie avec les gens de Plogov. Parce qu'on savait que le combat allait être très dur, que les médias n'y croyaient pas non plus, même ceux qui allaient nous soutenir après, je parle de presse écrite là, avaient titré « Dernière bataille pour un combat perdu ». On voit ça le matin, et nous allions donc manifester, et... traverser cette lande, et on avait demandé aux marins-pêcheurs de venir avec leurs bateaux. C'était des petites embarcations, encore à l'époque, hein, c'était pas... Et de venir donc du Guilvinec, de l'Octudie, Saint-Guénolé, tout le pays Bigoudin, d'Audierne, nous rejoindre par la mer. Et en tant que Bigoudaine, en tant que proche donc du Guilvinec et tout ça, je craignais qu'il ne soit pas là. Et mes amis aussi. Donc on était comme ça dans l'appréhension, et les premiers arrivants, et c'était des gens d'ailleurs qui étaient de l'extérieur, il y avait quand même un peu de gens de l'extérieur aussi, en arrivant ont eu le souffle coupé en voyant la beauté du paysage, quoi. Cette mer qui s'étendait là, paisible ce jour-là. Et cette côte qui allait être découpée avec la construction énorme, quoi. Et voilà, il y a eu un silence. Et nous, on a cru que les bateaux n'étaient pas là, ou n'étaient pas au rendez-vous. Et puis quelqu'un a crié « Putain, quel pays !» Et puis les marins ont lancé des fusées de détresse, les fanions, tout d'un coup de la musique. Enfin, il y a eu une ambiance, une folle ambiance pendant comme ça un moment. Et c'était un moment de joie, de joie forte, quoi. Et le désir de film s'est ancré là.
Ah, mais c'est tellement absolument puissant à vous entendre le raconter, Nicole Le Garec. Vous ne me regardez pas, vous avez les yeux, je ne sais pas où, dans le vague, mais complètement là-bas. Et je me dis, c'est évident que tout ce que j'ai vu moi, c'est-à-dire pas du tout ce que vous racontez, est nourri de la force de ce que vous racontez. Parce qu'à l'image... dans votre film à vous, ça va pas être tant que ça la côte et la mer et la force du pays. Ça va être le rapport régulier, quotidien harassant entre une population et la police. C'est une très grande partie, cette quotidienneté-là, de votre film, Nicole Garec. Donc il fallait peut-être qu'il y ait la mer, la côte, et les fumées comme ça, les fusées de détresse, dans le cœur, pour qu'il y ait de la force et de l'endurance.
Voilà, il fallait que ça soit ancré, que mon désir soit ancré dans quelque chose, et quelque chose de solide, quoi. Et en fait aussi, je comprenais aussi très très bien. Enfin, tous les gens qui étaient là ont eu une raison supplémentaire de s'engager, parce qu'on a dit on peut pas laisser faire ça, quoi. Et le lien entre le sol et les gens était très fort, on l'a compris là. C'est pas une région neutre, que c'est pas c'est pas non plus pittoresque, c'est fort, quoi. Peut-être un peu archaïque, même quelque chose, voilà, une nature. Et ça donnait plus de légitimité encore au combat. Ça venait s'ajouter à la cause première qui était anti-nucléaire, le côté contre le nucléaire. Et voilà, c'est pour ça que je pense que cette manifestation a joué beaucoup pour moi.
Il y avait dans ces rendez-vous quotidiens des affrontements, dans un premier temps verbaux, et notamment assez singulièrement entre des femmes et d'abord des plutôt jeunes policiers. L'une des habitantes est en plan fixe dans son salon ou sa cuisine. Nicole Le Garec, on l'écoute.
Je me trouvais tout près des mairies annexes. Un jeune montait la garde. Je me suis approchée de lui, j'ai essayé de parler avec lui. Il me regardait et il m'a dit « Madame, ne restez pas là, vous n'avez rien à faire ici ». J'ai répondu que jusqu'à preuve du contraire, bon, ben, j'étais chez moi, alors qu'il était là en occupant. Et bon, j'ai continué à m'adresser à lui en lui disant qu'il était très jeune et que j'aurais pu être sa mère. Et puis il ne m'a plus répondu. Je continuais à m'adresser à lui, il ne me répondait plus. Mais il me regardait. Et il était très, très nerveux. Il a commencé à faire les 100 pas, à aller et venir. Moi, je le suivais dans ses manœuvres sans rien dire. Et au bout de peut-être 4-5 minutes, plusieurs de ses supérieurs sont venus le prier de partir. Il a donc été relayé au bout de 10 minutes de garde.
Dès 9h, les femmes étaient là-bas. Hein. Il y a beaucoup qui savaient frapper juste. Et des mots qui faisaient mal parce qu'il y a des jeunes qui ne tenaient pas le coup. Ils étaient obligés de se faire remplacer. Il y a des jeunes qui ont craqué, qui se sont mis à pleurer.
Nicole Le Garec, c'est un extrait de votre film « Des pierres contre les fusils ». Et avant les pierres, il y a les mots. C'est très abrasif, cette lutte comme ça, menée principalement par les femmes au début. Un affrontement de verbes. C'est très étonnant de voir le visage des policiers devant ces femmes-là. Assez déstabilisant aussi, parce que c'est dur ce qui se passe entre ces humains. On n'est pas loin de se dire non plus. C'est dur qu'ils se retrouvent là, finalement, face à face, comme ça.
Tout à fait, parce que s'ils craquent, c'est que quelque part ils sont sensibles à ces mots. Quand l'armée est venue après, ils craquaient plus. Donc ils n'étaient pas vraiment aguerris. Et
les premiers policiers, vous voulez dire ?
Les premiers policiers, ceux qui étaient mis, les jeunes qu'on avait mis, qu'on avait fait venir à Plogoff. Et les femmes en face, elles se sont mises spontanément devant eux. Elles ont pris cette place, ça n'a pas été du tout une stratégie. En fait, elles l'ont fait spontanément. Et la préfecture, qui pensait que Plogoff, ce serait une population qui n'allait pas réagir, parce qu'elle était, c'était d'anciens militaires, c'était des retraités, c'était des gens de la marine, des gens qui avaient toujours respecté l'ordre établi. étaient dans l'obéissance de la hiérarchie. Voilà. Et là, ils vont basculer dans la désobéissance, justement, et une résistance active. C'est ça qui m'intéressait aussi. Parce que comment des gens qui ont été dans une certaine valeur toute leur vie, une certaine attitude, basculent dans l'autre camp. C'est pas si courant. Et ça m'avait intriguée. J'ai pensé qu'il y avait un sujet autour des gens de Plogoff. Et oui, je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Je pense qu'il fallait témoigner de tout ça. Et les femmes, la préfecture pensait que les femmes, évidemment, resteraient devant leur fourneau. Que ce soit les vieilles personnes, que ce soit les retraités, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, tout le monde était là. Et chacun, à sa manière, se battait pour que Plogoff reste ce qu'il était auparavant. Quoi.
Mais ce qui fait, Nicole de Guéret, que vous signez aussi, il y a 40 ans, un film sur qu'est-ce que c'est que la police d'un peuple ? Qu'est-ce que c'est que des forces de maintien de l'ordre ? Qu'est-ce que ça peut être le rapport entre des villageois, de Plogoff ou d'ailleurs, et des gens qui viennent faire respecter une décision étatique ? Et vous dites, des femmes ont l'intuition de se mettre face à face avec des policiers, mais l'intuition que vous filmez, mais en plus que vous filmez comme ça de manière très quotidienne, c'est de dire, finalement, ces policiers sont aussi des gens du peuple. Et s'il y a police, elle n'a de légitimité qu'à être la police du peuple français et non pas la police de l'État. Et c'est vraiment des questions qui sont mises en tension, d'autant plus mises en tension que d'un seul coup, il y a l'armée qui débarque et qu'autre chose se passe pour les habitants de Plogoff et que le combat devient véritablement... Vous filmez des sortes de scènes de guerre bien plus tard dans ce film-là. Est-ce que vous aviez conscience que votre film, et peut-être au montage, il était aussi en train de réfléchir à ça, au-delà de la lutte antinucléaire, au-delà de la préservation de cette côte du Finistère ?
Le problème, oui, de la police, qu'est-ce qu'elle est ? Quel rapport avec eux ? On a tout de suite compris, effectivement, que c'était des gens qui venaient du peuple. C'est des gens qui n'avaient pas trouvé de profession, de travail, qui avaient souvent choisi ça, non pas par choix, mais pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille. Et j'ai interviewé un garde mobile beaucoup plus tard, et il disait qu'ils n'étaient pas aguerris parce qu'on leur avait appris à se battre contre des jeunes, mais pas contre des grands-mères. Et des femmes. Et ça, eux aussi, ça explique qu'eux ne sont pas très à l'aise non plus. Ils ne sont pas. Les militaires sont là, on leur demande. Ils obéissent aux ordres, point. Ici, ils sont prêts à obéir aux ordres, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas pour eux, quoi. Et en plus, ils ont l'habitude. Enfin, les CRS, c'est dans les villes. Ils viennent, c'est là qu'on a l'habitude de les voir. C'était incongru de les voir comme ça dans un espace paisible. Il y avait différentes choses qui faisaient que il y avait le malaise. Il y avait un malaise chez eux. Et les femmes ne lâchaient rien, mais en même temps, dans la journée, parce qu'on était face à face toute la journée, c'était pas non plus dans la journée les gens se parlaient. Les femmes parlaient aux gardes mobiles et des conversations comme ça s'engageaient. Je trouvais ça très bien parce que c'est des humains quand même. Et qu'on puisse poser un peu le... et redevenir normaux, c'était sain, je trouvais. Et après, le moment, ce qu'ils ont appelé la messe, c'est le départ des mairies annexes à 17h. Là, les affrontements, il n'y avait plus de... là, chacun dans son camp.
Et dans son rôle aussi.
Et dans son rôle, voilà.
Du théâtre des affrontements, c'est-à-dire chacun jouait aussi un peu sa partition. Vous parlez du malaise des policiers, Nicole de Garec, mais il y a évidemment certaines habitantes qui sont hyper droites comme ça, dans leurs chaussures et dans leurs pulls de laine, qui n'hésitent pas. Et puis on sent bien qu'il y a certaines prises de parole, d'hommes ou de femmes d'ailleurs, qui sentent qui sont aussi dans un rôle, qui sentent que en interpellant comme ça les policiers, leur parole n'est pas toujours complètement certaine. On sent bien qu'ils sont pas dupes de ce qu'ils jouent comme partition eux-mêmes.
Oui, c'est tout. On a là, qu'est-ce que c'est lutter, quoi? Qu'est-ce que c'est, oui, la mobilisation quand on entre dans cette voie là. On évolue forcément, on change. Et effectivement, quelque part, on joue un rôle. Au début, il y a le côté spontané, on est révolté et on y va. Et ensuite, comme c'est tous les jours, chacun est dans son camp et chacun joue son rôle face à l'autre qui est l'ennemi, entre guillemets.
Parfois jusqu'à l'absurde.
Oui, ça peut être. Oui.
Parfois jusqu'à l'absurde, et vous filmez ça d'une manière très belle aussi, parce que c'est une fresque, c'est un film qui prend du temps, et qui, jour après jour, avec ce rendez-vous comme ça, à 17h d'affrontement, on est là, on se dit, on est au bout du Finistère, quoi, il n'y a pas un péquenot de l'État français qui débarque, et on laisse les gens... jouer leur partition comme ça.
Oui, c'était. On était un peu oubliés au niveau médiatique pendant un certain temps. Et donc, à huis clos presque. Mm. Et du coup, ça a une connotation particulière en fait, hein, très différente de ce qui se passe devant les préfectures où on met le feu ou tout ça. Ici, c'est le face-à-face. Mm. Avec ces hommes qui sont là tous les jours, avec leurs armes, et les manifestants. Et voilà, et il y a ces moments de pause, comme le goûter, par exemple, parce que à Plogoff, nous avions besoin de tout le monde, et du fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie, de choses, même de stratégie trop serré, trop... Chacun trouvait sa place. Chacun trouvait sa place et pouvait mener, avoir des initiatives. Marie Carval, qui était donc cette femme que l'on voit lors du goûter, elle sait recevoir et elle va le faire très à fond. Pendant cette période de 6 semaines, elle commence d'ailleurs par nous inviter, nous. Elle nous voit tous les trois, elle sait qu'on a 1 heure de route le matin et le soir, et elle nous dit d'emblée, vous n'allez pas rentrer à la maison, c'est trop loin, c'est une perte de temps. Vous venez chez moi. Vous allez dormir, je veux vous nourrir, vous héberger. Et elle fait un bel acte là, parce que on est trois gaillards, avec notre matériel, on est intégré beaucoup plus vite à la population de Plogoff par cette action qu'elle fait. Et le soir, on est là aussi lors des barrages, des barricades que l'on fait, et elle nous rend un fier service, c'est clair.
Barrages et barricades font que votre film prend un tournant plus grave, plus violent, plus tendu. On va écouter René Vautier dans une archive de 1989 dans les entretiens à voix nue de France Culture.
Je veux montrer ce que je vois et qu'il y a des forces installées, des structures qui s'opposent à ce que des gens montrent ce qu'ils voient. Transmettre aux autres la réalité d'une certaine vision du monde. Et j'ai toujours pensé, effectivement, que mon rôle, c'était de faire sauter ces structures avec un instrument qui est la caméra. Tu vois, à 16 ans, j'ai utilisé la dernière arme que j'utiliserai de ma vie. J'ai balancé une grenade et j'ai vu le gars sur qui je la balançais qui sautait. C'est un soldat allemand. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben d'accord, plus jamais ça. Et puis je m'y suis tenu, c'est-à-dire que pendant tous les conflits auxquels j'ai été amené à participer, la seule arme que j'ai eue, ça a été ma caméra. Et puis, mais je reconnais que la caméra, je la considère effectivement comme une arme.
11 personnes sont arrêtées, parmi elles un mineur, Robert Vaillant, le fils du sculpteur.
Dernière nouvelle, craignant des coups durs de chez nous, il y a des renforts qui sont arrivés à Concours.
Bon, ben, je crois qu'il vaut mieux ne pas se jeter dans la gueule du loup. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis pas la seule à avoir son gosse à bord, il faut faire quelque chose, on peut pas les laisser là-bas.
Madame Vaillant.
Vous avez vu comment elles ont agi sur les femmes? Ben oui, vous faites pareil, nos gosses. On peut pas les laisser comme ça, quand même non plus. Je suis allée poliment, j'ai demandé à voir le commandant. Il m'a claqué la porte au nez, surtout de venir rigoler devant mon nez, là. Il y a ses papiers sur lui, il n'avait pas un inspire, rien du tout. On l'a ramassé quand même, ils vont faire comme ils ont fait aux autres. Ça, il n'y a pas de doute. Et vous croyez que je vais rester toute la nuit attendre qu'il vous tape dessus? Sûrement pas, je retourne à comprendre. Ceux qui veulent venir avec moi, viennent avec moi. Ouais. C'est pas possible qu'on reste, qu'on laisse affaire comme ça. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est les miens, mais demain, c'est les vôtres. Si on a un truc comme ça, c'est fini, alors.
Il y a des gens de Togoff, écoutez-moi, là, un petit peu. Bon, les gens qui veulent y aller à Pontcroix, je crois qu'il serait nécessaire que ce soit des gens pacifiques qui y aillent. Ça sera sûrement plus nécessaire. Les gens qui sont, disons, un peu de mon genre, ils peuvent rester à Plogoff. Il y a du travail à faire ce soir.
Oui, très bien, très bien. Moi, il me semble que ce n'est pas une bonne chose d'aller à Pontcroix. Ou alors quelqu'un me dit, là, si d'aller à Pontcroix, peut-être les femmes, mais encore quoi faire. Mais si les hommes vont à Pontcroix, ils se font ramasser là-bas, ce soir même. Alors pourquoi il y aurait autre chose à faire, peut-être sur le plan local, ça, ça c'est à voir. Et avec Annick, dès ce soir, on va tâcher de contacter toutes les autres municipalités et que demain, ils viennent en nombre ici. Je crois que ce serait une bonne chose. Parce que dans les environs, on me dit qu'à partir du Lauve et à Pontcroix, ils sont en quantité industrielle maintenant. Et je crois que ce n'est pas le moment d'aller là-bas. Parce qu'au point où ils en sont, ils sont capables de ramasser 50 autres. Alors, je crois qu'il vaut mieux garder votre calme. Et on aura besoin de notre énergie, peut-être demain, soir, et peut-être d'avant, ouais. Mais enfin, pour le moment, je crois, c'est à Plogoff qu'il faut rester, et non aller à Pontcroix pour les provoquer davantage. Parce que, au point ils en sont, ils ramasseront tout le monde.
J'insiste sur les paroles de Jean-Marie, ils sont prêts à tout.
Oui, oui.
J'ai vu aujourd'hui donner des coups de pied à des femmes, oui. Donner des coups de matraque, alors... les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais concentrez-vous sur Plogoff. N'ayez pas peur de démolir les issues qui mènent à Plogoff. Que nous soyons une île qui ne puisse pas venir chez nous. Mais... N'allez pas à Pontcroix, vous ferez du tort aux gars, aux copains qui ont été ramassés ce soir. Mais je vous dis, faites travailler vos esprits et que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain.
Richesse de cette prise de son aux multiples plans, Nicole Le Garec. Ici, c'est un extrait de votre film Des pierres contre les fusils avec Félix Le Garec. Mais cette prise de son, elle montre à la fois les différentes prises de parole comme ça au micro et aussi, si on tend bien l'oreille, ce qui bruisse dans l'assemblée, ce qui bruisse de désaccords, ce qui bruisse de décisions divergentes quant à la stratégie à tenir face à la répression, cette fois policière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut rester sagement à Plogoff ou est-ce qu'il faut aller à Pontcroix pour manifester son mécontentement des arrestations qui ont eu lieu précédemment? Vous disiez tout à l'heure, Nicole Le Garec, ce film, c'est un film sur qu'est-ce que c'est que lutter. Et là, on sent bien que lutter, il y a aussi prendre des décisions de lutte. Et vous laissez exister ça dans la longueur.
J'ai trouvé ça très important, oui. Parce que souvent, on ne montre pas ces moments-là. C'est des moments où on montre un peu sa fragilité. On voit bien
sa complexité aussi.
Et la complexité de prendre une décision quand on est une décision collective, quand on est nombreux avec des gens très différents, évidemment. Et je trouvais au contraire que c'était important parce que Plogoff, c'était ça aussi. Hein, il y a quelqu'un qui dit à Plogoff on n'avait pas de chef et voilà. Alors c'était ça, ça donnait donc une certaine fragilité, comme je disais, au mouvement, mais en même temps une richesse aussi, parce que chacun se sentait écouté, pouvait prendre la parole, et à un moment, celui ou celle, là c'est une femme, c'est celle qui porte quelque chose, qui trouve le ton, les mots, et là, l'adhésion se fait à nouveau. Là, on sent le silence, les applaudissements, voilà, on est réunis à nouveau, et tout reprend comme avant. C'est pour ça que je trouve que c'est un moment fort auquel je tenais beaucoup.
De même que vous placez et gardez aussi au montage Nicole Le Garrec en face à face avec une femme à qui vous demandez mais finalement, tout le monde est en désaccord avec cette centrale nucléaire à Plogoff. Et vous laissez cette femme chercher, vous laissez cette femme à l'image s'interroger, se demander vraiment, et on voit l'honnêteté avec laquelle elle s'interroge. Ah oui, c'est vrai, tiens, est-ce que vraiment tout le village est contre? Et elle s'examine, on la voit réfléchir à l'écran, et elle vous dit oui. En fait, chacun à sa manière, mais vraiment, je peux t'affirmer, Nicole, que tout le monde est contre.
Oui, c'est vrai que je trouvais ça beau quelque part, qu'une femme s'interroge comme ça, parce que souvent, chez les militants, on sait déjà ce qu'ils vont, ce qu'ils vont dire, parce qu'ils peuvent pas être dans l'autre camp. Et elle, comme c'est pas une militante professionnelle, je dirais, pour aller vite, Elle est aussi pour la première fois dans, et elle le fait avec une grande honnêteté. Elle ne va pas s'engager à la légère. Elle veut maîtriser ce qu'elle fait. Elle le fait en ayant réfléchi. Et sur cette scène, justement, j'ai eu des gens qui étaient pour le projet, donc contre. Pour la centrale nucléaire, donc, me dire, mais Nicole, en même temps, ton film, je trouve que tu as été honnête sur un plan, tu as laissé les gens penser et réfléchir. Et c'était l'ancien maire de Douarnenez, Mazéas, Michel Mazéas, qui m'a dit ça. Il était communiste, et les communistes, à ce moment-là, du fait de Georges Marchais, ce qu'il avait dit, était pour la centrale nucléaire, et lui était allé voir le film, et ce moment du film l'avait touché, oui.
Aussi parce que il y avait des implications au-delà d'implications écologiques, technologiques ou d'environnement, Nicole Le Garrec, des décisions politiques très fortes, et Plogoff et l'implantation de cette centrale nucléaire pouvaient être un objet de négociation en haut lieu entre par exemple François Mitterrand, ses ministres, le patron d'EDF à l'époque. Mais puisqu'on a entendu la voix de René Vautier, peut-être c'est l'occasion de revenir à la fois sur ce qu'il dit, à savoir tous les conflits où je me suis trouvée, j'ai senti que ma caméra était une arme, et aussi de votre travail commun, puisque René Vautier fait partie, comme ça, fait partie d'un noyau dur qui a travaillé à la fois sur des films à l'échelle très, très locale, très implantée, et des réflexions politiques à l'échelle internationale. Dans quel cadre, Nicole Le Garrec ?
Alors René, nous l'avons rencontré en 1969. Il est venu au magasin, nous étions encore au magasin à Plenéour. Félix, mon mari, donc Félix Le Garrec et René Vautier, ils avaient travaillé sur le film Z de Kossa Gavras, qui était tourné donc en 68, je crois. Et suite à ça, René est venu nous voir au magasin. On a tout de suite été impressionné par ce personnage, naturellement. Lui, mon mari faisait quand même de belles photos qui surprenaient, en fait, qui surprenaient, parce qu'un photographe de Plogoff-Lanverne, on vient pas le chercher pour aller faire un film de Kossa Gavras, en principe pas. Donc c'était qu'il y avait une qualité quelque part. Et on s'est très bien entendu tous les trois, à tel point qu'on a décidé de créer une société de long métrage. René pensait déjà à son film Avoir 20 ans dans les Aurès. Donc l'unité de production Cinéma Bretagne, l'UPCB, a eu son siège au magasin de Pleunéour pendant un certain temps. Et voilà, c'était parti sur une voie. Voilà, on a travaillé 10 ans ensemble. Et bon, évidemment, qu'on a beaucoup appris avec René. J'étais marquée par son engagement. Et parallèlement, quand même, au film que nous faisions avec lui, long métrage, nous avions notre propre chemin et on faisait donc des diaporamas parce que Félix était photographe et moi je me suis découverte, j'étais complémentaire parce que j'avais besoin d'entendre les gens, de les connaître mieux, de les faire parler et qu'ils racontent leur histoire. Cette histoire pour qu'elle prenne place dans la grande histoire quelque part. On a besoin qu'il y ait dialogue entre les gens d'en haut qui décident et puis ceux d'en bas. Sinon, ça crée tout de suite un conflit très fort. Et c'est très mauvais ce qui peut en sortir. Donc, on avait, nous, ce besoin. Et moi, je me suis sentie complémentaire avec Félix puisque lui c'était l'image. J'ai pris donc pas un agra, moi j'étais pas une technicienne, mais un appareil de son pour donc enregistrer les gens. Ça j'ai structuré tout ça, hein. J'ai senti le besoin de mettre en phare certaines phrases qui étaient ressenties fortement. Enfin, je commençais déjà à savoir construire quelque chose, construire un récit, et ça va me conduire donc jusqu'à Plogoff, où je continue à travailler à partir de matériaux comme ça, de témoignages de gens, quoi, de gens simples, voilà.
Nicole de Garec, vous allez comme ça vous promener avec cette version restaurée de ce film 40 ans après l'avoir fait. Vous disiez, je le fais encore parce que des discussions se passent après les projections qui me touchent, qui m'intéressent. Elles traitent de quoi, ces discussions? Est-ce qu'elles traitent uniquement de Plogoff ou est-ce qu'elles traitent en fait de la France et du monde de 2020?
Alors, il y a finalement des jeunes. Hier à Nantes, il y avait des jeunes qui étaient là dans la salle. Et on a, avec ce film Plogoff, on a eu la visite de beaucoup de jeunes filles, jeunes gens, qui sont venus nous interviewer, qui sont venus faire un travail graphique à partir des images. Et ça nous a donné l'occasion d'échanger. Je suis très sensible à leurs attentes, à ce qui les attend aussi. Et je suis en empathie avec eux, avec leur combat, parce qu'on leur laisse une planète en très mauvais état, détériorée. Et ça, voilà, je suis sensible à ça. Et je pense qu'ils ont... En tout cas, en dehors de tout ce qu'il y a à faire au niveau pour les énergies renouvelables, des choses très pratiques, très comme ça, de terrain, et pour changer nos habitudes, notre façon de consommer et tout ça, il y a aussi parallèlement un récit fort à construire, qui nous parle du futur, qui nous parle de ce combat qu'auront les jeunes à mener, qui sera très dur ce combat, où ils auront, c'est vraiment comme une épopée qu'il y a à faire, parce qu'on peut espérer qu'à un moment, la conscience écologique, elle s'étende, elle s'ancre, elle prenne racine, et que un jour... ce combat-là voit le résultat et voit toutes ces bonnes nouvelles qui peuvent arriver de fleuves qui redeviennent vivants, d'oiseaux qui réapparaissent, de coquelicots qui fleurissent, de choses toutes petites comme ça, et des choses complètement essentielles et vitales. J'espère que parallèlement à tout ce qui va se faire de très concret et de très important.
Il y aura le récit de ça.
Voilà, voilà.
Merci beaucoup, Nicole Le Garec. Des pierres contre des fusils, c'est diffusé dans plein de cinémas en France. Par exemple, Le Goyen à Audierne, Cinéville à Concarneau, le Cinématographe à Nantes, le 14A à Quimper, les Carmes à Orléans, le Dauphin à Plougonvelin, la Belle Équipe à Calac, etc., etc. On mettra tout ça sur le site internet de l'émission « Par les temps qui courent ».
Madame, monsieur, j'ai glissé Madame, monsieur, j'ai glissé On annonce un été de Canadair De ciel embrasé Madame, Monsieur, j'ai glissé. Madame, Monsieur, j'ai glissé dans la diagonale Sioux. Dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé. Dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé. Dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays, me donner du pain, m'en faire don.
À la prise de son, c'était Doufar Guérid. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Julie Ascal, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor et Jeanne Aléos. C'est aussi une page sur franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, et un podcast auquel on peut s'abonner via l'application Radio France. Dans un instant, le journal, 22h sur France Culture. Très belle soirée à vous.
Je me suis redressé. Dans la tombe marine de Borgo, dans la rose blanche de Corfou, fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons. Madame, je me suis redressé.